Nous avons lu, chers amis, une série de passages qui n'ont pas, semble-t-il, un lien très direct entre eux. Mais le Seigneur met devant moi ce soir d'une manière très particulière, d'une part, l'immense privilège qu'il nous a accordé à nous qui connaissons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, d'être retirés de ce présent siècle mauvais par sa mort, de nous avoir donné une espérance bienheureuse et glorieuse. Il vient pour nous prendre avec lui, pour toujours, loin du monde. Et en attendant, il nous laisse dans ce monde afin que, comme l'apôtre Paul l'écrivait aux Philippiens, nous présentions, reluisant comme des luminaires, nous présentions la parole de vie, la parole de la vérité, le plein évangile de la grâce et du salut de Dieu. L'origine du chrétien, c'est la grâce de Dieu qui l'a tiré du monde. Ce monde, il le traverse avec le Seigneur et pour lui. Et puis, le but, c'est le ciel, c'est la présence éternelle du Seigneur autour de lui. Considérant ces choses, nous aimerions que notre attention soit attirée sur quelques enseignements très pratiques que nous donne l'Écriture, qui ne sont pas des commandements au sens où les commandements de Dieu étaient donnés au peuple d'Israël. Nous l'avons chanté, des poudres de la loi s'éteignit la menace, car la loi disait « Fais ces choses et tu vivras ». J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais il fallait faire ce que Dieu avait dit. Et nous avons été démontrés au cours de l'histoire de l'homme sur la terre que nous étions complètement incapables de faire quoi que ce soit qui nous ouvre le plus petit coin du ciel. Rien en nous, rien par nous ne pouvait nous ouvrir l'accès de Dieu. Et pourtant, le bonheur est là. Nous le savons bien, nous qui croyons, puisque nous possédons le vrai bonheur dans la jouissance de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, et puisque nous avons devant nous ce bonheur ineffable, inexprimable, éternel, qui sera notre portion avec Jésus pour toujours, nous le savons, nous le disons. La question se pose, est-ce que nous le montrons? Est-ce que nous manifestons dans ce monde que le Seigneur y tient une telle place, que le ciel remplit tellement nos cœurs dès maintenant que le reste ne compte plus et que les choses visibles ont perdu de leur importance? Vous êtes nombreux, enfants de chrétiens, ici, à avoir entendu parler de l'amour du Seigneur et de l'œuvre de la croix. Dimanche après dimanche, vous avez sans doute tous une Bible. Je pense que vous la lisez, mais est-ce que cette Bible, cette parole de Dieu, a sur vos cœurs et dans vos vies une puissance sanctifiante telle qu'elle vous sépare moralement du monde dont nous sortons par la grâce de Dieu, du monde au milieu duquel nous vivons et au milieu duquel nous avons à rendre témoignage au chef de notre saint. Eh bien, considérons quelques-unes des vérités qui ont été évoquées devant nous par ces divers passages. Il y en aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait lire, et nous ne pouvons que engager les cœurs à se pencher toujours davantage sur l'Écriture, sur la parole de Dieu, pour la connaître, pour la la sonder pour y découvrir les voies merveilleuses de Dieu envers de pauvres pécheurs perdus, pour jouir davantage de ce qui est à nous pour toujours et pour ne pas nous arrêter et nous traîner dans ce monde. Il y a bien des façons de marcher. Il y a la façon qui consiste à regarder le but et à persévérer dans la marche jusqu'au bout. Il y en a une autre qui consiste à regarder tout autour de soi, à glaner un peu ici, à glaner un peu là, à s'arrêter un moment pour profiter de ceci en passant. Et puis les années passent, on n'a profité de rien et l'âme s'est appauvrie. Et vous verrez un jour, si le Seigneur vous laisse, jusqu'à 70 ans, ça semble bien loin, n'est-ce pas? Vous verrez comment les 50, 45, 50, même peut-être 60 années qui vous séparent de cela, vous verrez comme elles se sont envolées, laissant, si vous n'avez pas connu, goûté l'amour de Jésus, si vous n'avez pas eu vos cœurs remplis de lui, vous verrez comme le cœur reste vide, vous n'aurez vraiment rien. Eh bien, c'est précisément afin que nous connaissions mieux le Seigneur qui nous a engagés dans son chemin et que nous comprenions de quelle manière nous pouvons le suivre, que ce soir il nous donne ces quelques passages. Nous commencerons pas dans l'ordre où nous avons lu, je pense que chacun les trouvera, mais nous avons lu dans les Galates, au commencement de cet épître qui s'adresse à des chrétiens qui retournaient aux foudres de la loi, en croyant qu'ils pouvaient garder dans la main droite la grâce et dans la main gauche la loi. Eh bien, chers amis, ce n'est pas possible. Ou bien Christ a tout fait, ou bien il n'a rien fait. Et s'il n'a rien fait, je ne peux rien faire. Et s'il a tout fait, je n'ai plus rien à faire pour mon salut. Mais j'ai à m'attacher à lui pour le suivre. Ces Galates oubliaient, comme nous l'oublions souvent, que le Seigneur a été envoyé, qu'il est mort sur la croix pour nous retirer du présent qui est maudit. Voyez-vous, il y a trois mots, quatre mots là, d'une grande importance. Retirer. Quand on retire quelque chose de l'eau, il n'y est plus. Quand on retire quelque chose d'une maison, le meuble n'y est plus. Nous sommes retirés. Par conséquent, nous ne sommes plus où nous étions, les croyants. Retirer du présent siècle, le siècle actuel. Remarquez bien, il y a 2000 ans que ça a été écrit, ça presque, 1800 ans, 1900 ans, 1900 ans. Et le présent siècle n'a pas changé. Pas plus que le monde dont le Seigneur Jésus parlait dans le 17 de Jean, dans le 15 de Jean, nous avons lu ces passages. Ce que le monde est, ce que le monde fait, ce que le monde donne, nous aurions pu lire encore un verset. Je ne vous donne pas à moi comme le monde donne. Oui, nous sommes retirés de ce monde-là, le présent siècle, attrayant par bien des égards, ce siècle qui dure depuis que l'homme est sur la terre, dans ses caractères moraux, mais qui est caractérisé bien plus spécialement par, dans cette expression, par le caractère qu'il a pris en rejetant le Saint-Fils de Dieu. Voyez-vous, le monde a maintenant les mains tachées du sang du Saint et du Juste. Le monde. Vous vous demandez alors qu'est-ce que c'est que ce monde, nous allons dire. Mais retirez de ce présent siècle, de toute son agitation, de toute son organisation, de tout ce qu'il prépare, de tout ce qu'il prévoit, de tout ce qu'il entend établir, nous sommes retirés de ce du passé, du présent, de son passé, de son présent, de son âme. Nous en sommes retirés. Et ce présent siècle
est caractérisé d'un mot très court dans l'Écriture, le présent siècle mauvais. Voyez-vous, Dieu ne cherche pas des mots qui font beaucoup de bruit, mais qui atteignent la racine même du caractère de ce monde, il est mauvais. Quand un de vos parents vous dit « ne va pas avec ce camarade-là, c'est un mauvais camarade », on n'a que personne, mais il exerce une mauvaise influence. Eh bien, le monde est mauvais parce qu'il ne connaît pas celui qui est bon Dieu, parce qu'il ne connaît pas celui qui est venu manifester l'amour de Dieu. Il ne peut pas le connaître, ce n'est pas possible. Il l'a crucifié, il l'a rejeté. Et alors, il porte son propre caractère, ce présent siècle mauvais, et il le garde. Il l'accentue, peut-on dire, de plus en plus, jusqu'au moment où il n'y aura plus qu'une chose que Dieu puisse faire sur ce monde, c'est exercer un jugement sans miséricorde, afin d'ôter les méchants, les rebelles, pour établir le règne de paix. Et encore après cela, nous toucherons tout à l'heure ce point. Le monde n'aura pas été amélioré. C'est un monde qui n'est pas améliorable. Dieu a tout fait pour ce monde, tout. Il a donné son Fils unique. Après avoir parlé de tant de manières au cours des âges, il a donné son Fils unique. Et quand il est venu, on lui a donné une crèche. En entrant, une croix pour sortir, il n'a rien eu pour lui ici. Voilà le monde dans lequel nous sommes. De quand date-t-il ? De Caïn. De Caïn. Le monde date de Caïn, l'organisation du monde. Mais le monde est apparu immédiatement après la faute d'Adam, le péché d'Adam. Ce péché qui a consisté à faire sa propre volonté au lieu de faire celle de Dieu. À ce moment-là, le principe du monde est là. Une volonté assujettie à celle de Satan. Quoi ? Dieu a dit, vous ne toucherez pas à l'arbre, vous ne toucherez pas à l'arbre. Dieu n'avait pas dit, vous ne toucherez pas, il avait dit, vous n'en mangerez pas. Alors voilà le mensonge, le menteur dès le commencement, qui insuffle à l'homme, innocent alors, et qui n'avait qu'à se louer des bienfaits, des bénédictions de son Créateur. Voilà l'homme qui prête une oreille attentive au menteur. Le péché entre dans le monde. Le péché est entré dans le monde, disons-nous dans Romains. Et par le péché, la mort. Par un seul homme, c'est Adam qui a désobéi. Mais nous l'avons tous suivi dans ce chemin-là. Et nous portons tous une nature en Adam, une nature de pécheur. Et c'est cela qui remplit le monde, des pécheurs. C'est de cela qu'est composé le monde. Et Caïn, lorsqu'il a mis à mort son frère Abel, le juste, parce que ses œuvres étaient bonnes selon Dieu, et que les siennes étaient mauvaises. Voilà déjà le mot qui apparaît là. Eh bien, à partir de là, Caïn veut s'organiser. Une malédiction pèse sur lui. Jusque-là, la malédiction était sur le monde. Elle était sur le monde. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 3 de la Genèse, où il est écrit, l'homme dit à Adam, maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Tandis que lorsque Dieu parle à Caïn, tu es au verset 11 du chapitre 4, et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Il n'est pas maudit de Dieu. S'il était maudit de Dieu, il serait condamné à une damnation éternelle. Satan est maudit de Dieu. Mais pas l'homme qui l'a entraîné, mais il est maudit de la terre. Il porte maintenant les conséquences de son péché, et au lieu d'écouter la voix de Dieu, qui le laisserait sur la terre, il organise le monde. Vous verrez bien dans le chapitre 4 comment il a cherché, et les arts, et la musique, et les instruments, et l'industrie. Voilà l'homme qui s'installe, comme s'il disait à Dieu, eh bien, tu me maudis. Tu me laisses maintenant sans ressources, je n'ai d'espoir que de ton côté, je m'en passerai. Je veux bien me débrouiller, je suis assez fort, assez intelligent. Et voilà le monde, voilà le caractère du monde. Et c'est en cela qu'il est mauvais. Non pas seulement parce qu'il fait du mal, c'est parce qu'il est mauvais qu'il fait du mal. mais parce qu'il ne veut pas de Dieu. Le monde est ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Et nous étions aussi du monde et des ennemis dans nos mauvaises œuvres et dans notre entendement, dans le matériel. Ah, quel état, dans quel état nous étions. Voilà le monde. Eh bien, c'est dans tel monde que le Seigneur est venu tirer les siens. Pour créer les mondes, Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière. Pour retirer de ce monde de pauvres pécheurs perdus, misérables, sans espoir de secours, le Seigneur est descendu dans ce monde. Il vint du ciel s'offrir en sacrifice. Et quand il est venu, il n'y avait eu et il n'y a eu depuis sur la terre qu'un seul très juste qui porta la justice en lui-même, qui a glorifié Dieu dans toute sa vie et jusqu'à la fin et jusqu'à la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, voilà l'homme parfait. Il est appelé le second homme qui est venu du ciel. Le dernier Adam, le premier Adam, c'est Adam et tous ses descendants, vous et moi. Voilà le premier Adam, une race perverse, une race perdue, une race sur laquelle le jugement de Dieu pesait, mais envers laquelle Dieu a voulu puiser de grâce. Et pour cela, le dernier Adam est venu, un esprit vivifiant. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et du moment où vous croyez, si nous croyons ici tous, nous avons la vie éternelle, nous sommes retirés de ce monde. Mais c'est tellement vrai, chers amis. Vous avez entendu dans les Corinthiens, en un instant, à la dernière trompette, quand la trompette sonnera, les morts seront ressuscités, les vivants seront changés, et nous s'en irons avec le Seigneur, en un instant. Si le Seigneur venait pendant que nous parlons, à l'instant précis où nous parlons, eh bien en un instant, tous ceux ici et toutes celles qui ont la vie de Dieu s'en iraient avec lui pour toujours. Et s'il y en a un, s'il y en a une qui n'est pas sauvée, il resterait sur son banc, sur sa chaise, allant au-devant des jugements avec le monde auquel il est demeuré attaché. Quelle pensée sérieuse! Ah, chers amis, je ne pourrais pas fermer l'œil cette nuit si je n'étais pas converti. Je ne pourrais pas m'endormir tranquille si j'avais encore sur moi le poids de mes péchés. Mais le poids de mes péchés est tombé sur Christ, sur le Sauveur, mon Sauveur, et tous ceux qui l'appartiennent peuvent le dire. Et voilà l'assurance du salut. Voilà sur quoi repose le salut d'une âme, pas sur autre chose, ni sur vos œuvres, ni sur vos bonnes dispositions, ni sur le fait que vous avez eu des parents chrétiens, ni sur le fait que vous êtes là ce soir. Non, vous êtes là devant Dieu. Écoutez-le. Écoutez-le. Tournez-vous vers moi, vous dites. Tourne-toi vers moi, âme perdue, et sois sauvé. Moi, je te sauverai. Moi, je te donnerai par Jésus-Christ. Retirez d'un tel monde, le Seigneur nous y laisse. Il nous y laisse. Il nous donne dans ce monde la paix. La paix, c'est-à-dire cette paix qui vient du pardon de nos péchés, nous sommes assurés. Plus de crainte, plus de terreur. Et puis, il nous donne sa paix pour que nous traversions ce monde avec lui, en jouissant du repos qu'il avait dans la communion avec Dieu. Mais dans ce monde, le chrétien est dans un monde hostile. Il faut aller à contre-courant dans ce monde. C'est évident, le monde court vers sa ruine. Il rejette toujours davantage Dieu. On n'en veut plus regarder dans les pays totalitaires. L'homme est établi à la place de Dieu. Et dans nos pays christianisés, un jour, le caractère sera le même, la parole nous le dit. Ne croyons pas que nos pays où l'on voit des croix, où l'on voit des crucifix, où l'on voit des services religieux, où l'on voit des temples et des églises, ne croyons pas que tout cela a changé le monde de ces pays. Le monde chrétien reste, à part les vrais croyants, le monde christianisé reste le monde. Il y a deux caractères du monde, le monde sans Dieu et le monde qui prétend pratiquer pour Dieu, mais qui n'a pas la foi au Sauveur comme au Seigneur Jésus mort pour lui. Il y a des âmes dans ce monde, il pourrait y en avoir au milieu de nous. Il peut y en avoir. Alors, que ce soit l'un ou l'autre de ces caractères, c'est le monde. Le monde religieux, j'entends par là le monde professant mais qui n'a pas la foi au Fils de Dieu comme au Sauveur personnel mort pour lui, eh bien ce monde-là C'est un arrangement du diable le plus magnifique. Il a fait une contrefaçon extraordinaire du vrai christianisme, et ceci s'est vu au début de l'Église. Nous en avons l'annonce dans le 20 des Actes. Nous ne disons rien qui vienne de l'Écriture. Ça peut être contrôlé. Dans l'Écriture, les prophéties concernent le cheminement que prendra l'Assemblée, l'Église de Dieu sur la terre, et nous savons très bien que c'est un affreux mélange, affreux pour Dieu, que ces croyants mêlés à des inconvertis. Et il y en a. Il y en a. Vous n'avez qu'à assister à un service religieux, vous verrez des athées connus et reconnaissant et proclamant qu'ils sont athées, s'associer aux pratiquants pour faire les mêmes gestes. Quelle ironie, quel défi lancé à Dieu. Tout cela est une religion du monde. Et bien que ce soit la religion du monde, que ce soit le monde qui la rejette, c'est le monde de Satan. Le prince de ce monde vient, a dit le Seigneur. Pourquoi est-il le prince de ce monde? Parce qu'il le mène. Maintenant, reconnu comme prince par Jésus lui-même, alors que lui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il le mène à sa guise, après avoir amené le monde à rejeter le Messie qui lui était envoyé. Il y a un temps de patience de Dieu remarquable. Dieu garde le silence jusqu'au moment où les nations vont conspirer contre l'Éternel et contre son loin, psaume 2. Mais où Dieu les exterminera et interviendra, car il aura le dernier mot. Mais jusque-là, sa patience dure, elle dure ce soir. Et alors, dans ce monde, le chrétien a un chemin. Il est laissé par le Seigneur lui-même. Je les envoie dans ce monde comme tu m'as envoyé. Voyez-vous, nous sommes laissés dans le monde, non pas pour être des sauveurs du monde, non pas pour être des apôtres, il fallait être appelé apôtre par Dieu lui-même, mais pour être des témoins, pour être les porteurs de la lumière divine, les porteurs de la vie divine, qui fait un contraste aussi éclatant que la lumière le fait avec les ténèbres. Pas si à l'instant il y avait une panne de lumière, nous serions plongés dans des ténèbres profondes. Nous ne verrions plus, nous ne verrions rien. Que quelqu'un vienne avec une toute petite lampe, une lampe pigeon, et il y aura de la lumière. Elle ne sera pas éblouissante, mais il y aura de la lumière. Les ténèbres s'en vont. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, a éclairé tout homme. Elle éclaire toujours, c'est le Seigneur Jésus. Voilà la vraie lumière. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres. Elle, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas compris. On n'a pas voulu de cette lumière. Et vous vous étonneriez maintenant? On s'étonnerait que le monde soit perdu et tâtonne dans un lieu obscur, sans savoir que faire, sans savoir où trouver sécurité, sans avoir d'avenir précis devant lui. Vous vous étonnez d'entendre des gens du monde dire « Mais qu'est-ce qui va arriver? Au-devant de quoi allons-nous? Au-devant de quoi? Au-devant de ce que Dieu a écrit, on a bien longtemps. Ce que Dieu a révélé. Mais le monde ne veut rien entendre de cela. On croira tous les prophètes de ce monde, on consultera tous les diseurs de bonne aventure, on consultera tous les propos de ceux qui prétendent dévoiler l'avenir, mais le seul propos de Dieu concernant l'avenir de ce monde, comme l'avenir des croyants, on le laisse de côté, on n'y met pas attention. Y a-t-il aveuglement plus grand? Y a-t-il ténèbres morales plus profondes que celles d'un tel monde? Eh bien, chers chrétiens, au milieu de ce monde, vous êtes des lampes, vous êtes des lumières. Et la lampe qui brille en vous, c'est la lumière de l'Esprit Saint, la lumière de la vie. Celui qui croit en moi aura la lumière de la vie, a dit le Seigneur. Mais cette lumière qui va croissant et qui se présente et qui éclaire le chemin, la parole est aussi une lampe. C'est lié tout cela. Christ est la lumière du monde, la parole est la lumière pour le croyant, elle est une lampe à mon pied, une lumière à mon sentier, dit le psalmiste, de sorte que nous avons dans la parole la vraie lumière. Lisez-la beaucoup parce qu'elle projette sa lumière sur tout ce qui nous concerne. D'abord sur ce qui concerne Dieu lui-même, quant aux propos de son cœur, quant aux propos concernant son propre fils. C'est lui qui a cherché une épouse pour son fils. Elle éclaire tout quant à l'état réel du monde. Elle éclaire tout quant à la question du péché. Un mot qu'on n'ose plus prononcer dans certains temples, dans certaines églises. Le péché, mais c'est révolu, ça. L'homme nous parle du péché. Nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Non, quand même, écoutez, ça, c'est du passé. Le parler du, avec les progrès de la morale, avec tout ce que nous pouvons faire maintenant, tout le social que nous déployons, ne nous parlez plus de péché. Non, chers amis, le péché est là. C'est un mot en lettres de sang, écrit sur ce monde, péché. Péché, mort, ce sont deux mots liés. Et quand le péché est là, et que la mort est liée au péché, on est dans les ténèbres les plus profondes, sans force pour en sortir. Et alors, nous avons la lumière de la parole. Et nous avons à marcher dans ce monde. Mais alors, si pour le Seigneur, il était facile de marcher, non pas qu'il n'ait pas eu à souffrir du monde, n'oublions pas qu'il nous a dit qu'il a enduré la contradiction des pécheurs contre lui-même. Il n'avait rien en lui, rien en lui. Il me dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'avait pas une nature pécheresse. Il était semblable à nous en toutes choses, à part le péché, de sorte que, venu pour faire la volonté de Dieu, il s'est soumis à cette volonté qu'il connaissait et il l'a accompli jusqu'au bout à la gloire de Dieu. Nous, nous avons notre vieille nature à l'écrire. Et notre vieille nature fait partie de nos corps charnels. Nous avons la vie divine en nous. Nous avons en nous Dieu qui habite par son esprit. Le croyant a une nouvelle nature. Une nouvelle nature qui aime Dieu, qui recherche la pensée de Dieu, mais il a toujours sa vieille nature. Et cette vieille nature, voyez-vous, elle ne trouve de satisfaction que dans le monde, que dans les choses qu'elle voit, que dans les choses que le cœur naturel aime. Et c'est là pour nous la lutte, le sujet, la cause profonde d'une lutte constante. Et nous pensons beaucoup à vous, jeunes chrétiens, parce que vous avez devant vous, si le Seigneur vous laisse, des années où il vous faudra apprendre à connaître les subtilités, toutes les ruses de cette vieille nature, de ce corps-cœur qui est désespérément malin, dit l'Écriture. On en peut désespérer, il n'y a rien à faire, il ne s'améliore pas. La vieille nature ne s'améliore pas. Un pommier sauvage, on peut lui donner tous les soins qu'on veut. On peut lui prodiguer tous les traitements voulus. Il donnera des petites pommes amères jusqu'à la fin. On a beau le tailler, ce sont des pommes amères. C'est sa nature. Ce qu'il faut faire, c'est le couper et greffer un bon pommier. Et là, on a de bonnes pommes. Seulement, il ne faut pas laisser les racines du bas, les tiges en dessous de la greffe pousser, parce qu'alors, elles redonnent les deux fruits. Et c'est pourquoi nous avons constamment à veiller sur nos cœurs, à réaliser une marche par l'Esprit, sous la direction du Saint-Esprit qui habite en nous, afin de pouvoir glorifier le Seigneur et nous détourner du monde. Alors nous avons ces injonctions. Nous avons d'abord la prière du Seigneur. C'est la première, adressée à son Père. Je ne te demande pas que tu les ôtes du monde. Oh, ce serait si heureux. Si un jeune chrétien savait, le jour de sa conversion, à quelle lutte, à quelle tentation, à quel danger, à quel faux pas, peut-être à quelle chute il sera exposé, je crois qu'il demandera au Seigneur, Seigneur, prends-moi tout de suite. Prends-moi tout de suite. Dans la pureté et la simplicité de ma foi. Mon cœur est rempli de toi, je voudrais être avec toi. Seulement, nous ne nous connaissons pas à ce moment-là. Il faut apprendre à se connaître. Et que de fois alors, nous apprenons cela avec beaucoup d'humiliation, qu'il y a en nous un lien. Je sais, dit Paul, en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Voilà une découverte, là, on le sait. Voilà une découverte, mais il faut la faire. Il faut la faire et l'expérimenter. Alors, le croyant a donc devant lui toutes ses luttes. Elles sont dans l'Écriture, on le sait, on nous sommes enseignés, et le monde, nous ne pouvons en être gardés que par la puissance de Dieu. Gardés de ce monde, de tous ses attraits. Ce qui nous amène à cette première exhortation très pratique, si nous aimons le Seigneur, prions-le sans cesse, pour qu'il nous garde attachés à lui, qu'il remplisse notre cœur, qu'il soit tout pour nous, tous les jours davantage, apprendre à le mieux connaître, pour mieux l'aimer et pour le suivre plus fidèlement. Et puis, le Seigneur nous gardera, Dieu nous gardera. Il a pu dire, j'ai gardé ce que tu m'as donné, mais maintenant, je vais m'en aller. Le Seigneur est parti au ciel, mais il a envoyé le Saint-Esprit et il demande au Père de nous garder. Et nous sommes donc gardés par Dieu lui-même au milieu de tous les dangers qui nous menacent. Si nous n'avions pas cette assurance bénie, alors il y aurait de quoi se décourager. Mais je suis gardé par quelqu'un de plus fort que moi, par quelqu'un qui m'aime, par quelqu'un qui me dit « Confie-moi ta vie. Confie-moi ta vie. Repose-toi sur moi. Abandonne-toi à mes soins. Laisse-moi te former. » Et fidèlement, chaque jour un peu, le lendemain un peu, et bien nous sommes formés pour être attachés au Seigneur et pour être détachés des choses qui sont. La deuxième chose, c'est la parole. Nous l'avons sanctifiée par la vérité, ta parole est la vérité. De là l'importance de la lire. Avec prière, la parole, qui seule peut m'éclairer sur ma vie bienvenue, me dire ce qu'elle est, qui seul peut me montrer les ressources qui sont à ma disposition en raison du fait que je suis né de nouveau et que le Seigneur a tout fait pour moi. Il va même beaucoup plus loin. Il me dit non seulement j'ai fait cela pour toi, je suis mort pour toi, mais dans ma mort, tu es entré avec moi. Tu es entré avec moi dans la mort. C'est Romains 6. C'est Romains 6. Tu es mort avec moi. Alors le jour où je saisis cette chose avec la puissance de l'Esprit, lorsque je réalise enfin que je suis mort, j'ai une réponse à faire au diable tous les jours. Quand Satan me tend, quand Satan me dit, mais il y a telle chose dans le monde intéressante, dimanche après-midi, il y a tel match, ce serait intéressant de le voir, j'ai une réponse à faire Satan, le nouvel homme n'y trouve pas de plaisir, quant à la vie nature, elle est morte. Elle est morte. Tu ne peux plus la toucher, voilà chercher la croix. Voilà chercher dans le tombeau avec Christ, c'est laquelle. Et oui, il y a là une base très solide de l'affranchissement. Nous sommes libérés d'une partie de nos luttes, il y en aura toujours, mais libérés de ce sentiment que nous sommes vaincus à l'avance. Nous ne partons pas à la guerre vaincus, nous sommes partis à la guerre derrière le grand vainqueur, qui a remporté sur nous une victoire définitive, d'abord en faisant de nous les enfants de Dieu, par la foi en son sang, nous lavant de nos péchés, et qui ensuite nous associe à lui dans sa mort et dans sa vie de résurrection. Méditez beaucoup Romains 6. C'est un sujet capital pour les jeunes croyants. Et puis, nous avons la parole. Alors je me nourris de la parole. Voilà le chrétien qui est à l'écoute de la voix de Dieu, à l'écoute de la voix du Seigneur. Nous avons dans l'Écriture quatre sujets qui sont étroitement liés. Premièrement, mes brebis écoutent ma voix, voilà la parole. Elles me suivent, voilà le chemin. Et puis, en attendant, elles le savent. Servir en attendant. Écouter, suivre, servir, attendre. Voilà quatre étapes de la vie chrétienne, non pas successives, mais qui sont devant nous toujours. Le Seigneur nous accorde de le réaliser en écoutant la voix qui nous parle dans la parole. Ils ne sont pas du monde. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit qu'ils ne doivent pas être du monde. Ils ne sont pas du monde. Ceci rejoint notre pensée que nous exprimions au commencement. La pensée, c'est celle-ci. Nous sommes arrachés au monde, donc nous n'en faisons plus partie. Nous n'avons pas à sortir du monde. Nous en sommes arrachés. Mais nous avons à rester en dehors où Dieu nous a mis. C'est là que les luttes sont difficiles, parce que nos cœurs veulent y retourner. Vous savez que le cœur des fils d'Israël est retourné en Égypte, avec le souvenir des melons, des concombres, des oignons, de tout ce qu'il y avait en Égypte. Ils avaient oublié simplement qu'il y avait des coupes, qu'il y avait de la dureté de service. Tout cela, ils l'avaient oublié. Ils n'avaient gardé du monde, l'Égypte c'est le monde, que le souvenir de ce qu'on y trouvait qui satisfaisait la chair. mais toute la dureté du Pharaon, de cet oppresseur du peuple de Dieu, tout cela était oublié. Ne faisons pas comme eux, chers amis. N'oublions pas ce que le Seigneur a fait pour nous. N'oublions pas qu'on nous arrache au monde, qu'il a dû livrer un combat avec Satan, et que c'est à la croix qu'il a triomphé de toutes les puissances de méchanceté, à la croix, en mourant pour nous, et que par conséquent il nous a délivrés pour jamais. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Nous chantons dans un cantique, je suis mort avec Christ. Et alors, ayant ses ressources, la prière, la parole, l'intercession du Seigneur, qui dit, je ne fais pas de demande pour le monde. Oh non, le Seigneur ne s'occupe pas du monde. Il s'en occupe en ce sens qu'il est le grand souverain et que rien ne se fait sans qu'il le veuille. Si les événements doivent avoir tel cours, il les oriente. Mais il ne s'occupe pas du monde, sauf pour y faire connaître la parole de sa grâce et sauver des âmes. Et dans ce service, il nous y associe. Ne le perdons jamais. Nous sommes là, pensons donc à ces âmes qui sont dans le monde. Parlons-leur de l'amour de Dieu. Parlons-leur de leur état de perdition, dont elles ont parfois conscience, et dont parfois elles ne se rendent pas compte. Montrons-leur qu'il n'y a pour elles aucune lumière, mais que la grâce, le salut sont du côté de Dieu. Annonçons-leur Jésus, parlons-leur du Sauveur, parlons-leur du Seigneur. Et alors il se fera, le Dieu se servira de cela pour faire son œuvre dans le cœur. Voilà ce que nous avons à faire dans ce monde, à y présenter la parole de vie, à y rendre un témoignage positif pour le Seigneur. Alors nous avons ensuite des exhortations qui viennent nous stimuler dans tout cela. Alors avant, nous allons nous arrêter. Nous avons des exhortations et très solennelles. Nous dirons d'abord, nous rappellerons d'abord celles que nous avons en Jacques. Je dirais un mot avant, rapidement, à propos des persécutions que le monde fait supporter aux chrétiens. On pourrait dire, mais le Seigneur a dit cela, mais il n'y en a plus. Oh, il n'y en a plus. Dans nos pays, c'est une grande grâce. C'est peut-être pour ça que nous nous endormons. Mais il y en a de l'autre côté, les rideaux de fer. Il y en a dans d'autres pays. De chères âmes, de chers enfants de Dieu qui voulaient parler du Seigneur, qui se font mettre en prison et qui sont déportés dans des camps. Il y en a des persécutions. Et il y en a eu dans le passé. Et il peut y en avoir demain. Si c'est nécessaire pour nous réveiller notre sommeil, eh bien, le Seigneur le permettra. Satan reste le serpent ancien qui, par ses ruses et ses astuces, cherche à tromper le croyant, mais il reste aussi le lion rugissant. Et l'apôtre Pierre dit, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous. Ne l'oubliez pas, chers amis, il rôde, sans bruit, il ne rugit pas en rôdant. S'il rugissait, tout le monde s'en vient, il se fait. Il rôde tranquillement, il attend une petite fissure, il attend qu'un jeune homme se tourne, un jeune chrétien vers une jeune fille du monde, il vise sur ça. Il attend qu'un jeune homme choisisse une profession dans laquelle il sera pris le dimanche. Il attend que jeune homme cherche à être grandes ambitions et cherche à s'élever dans ce monde et d'autres circonstances encore. Et à ce moment-là, il commence à détourner, il poursuit son œuvre du passé. Veillez, veillez, c'est pourquoi veillez, dit l'apôtre. Nous avons à veiller toujours. Si on dort, ça ne va pas. C'est quand on dort que l'ennemi entre. Les sentinelles sont là pour veiller. C'est d'abord leur propre sécurité et celle du camp tout entier. Et bien, c'est la même chose. Alors, nous avons donc les persécutions qui sont une marque efficace, très visible, de l'opposition du monde contre les croyants. Dites-vous, mes amis, que le monde ne vous aime pas plus qu'il n'aime Jésus. Et si vous êtes fidèles, vous le verrez. Vous le verrez que le monde est toujours le même. Oh, on ne va pas vous mettre sur une croix. C'est bien ici, ailleurs ça c'est fait. Mais on va vous tenir à l'écart, on va vous nuire dans votre avancement, on va se moquer de vous, ce n'est pas le moins douloureux quand on est un objet de mépris, et d'autres choses encore. Le monde n'aime pas les chrétiens, quand les chrétiens sont fidèles. Et quand ils les aiment, quand le monde nous aime, demandons-nous pourquoi ils nous aiment. Est-ce que ce n'est pas parce que nous y ressemblons à vous? Est-ce que ce n'est pas parce que notre drapeau est caché? Est-ce que ce n'est pas parce que nous nous conformons à ce monde? Nous lisons dans Romains 12, ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas, voyez-vous, même les apparences que le monde prend, elles portent un caractère mauvais. On va dire, mais vous êtes sévère pour le monde, mais je ne suis pas sévère pour les pauvres âmes qui sont dans ce monde. Je les plains de tout cœur. Et on nous dirait maintenant, venez, il y a une âme qui meurt là à côté, arrêtez la réunion, il faut lui parler de l'amour du Seigneur, elle demande. Mais nous irions tout de suite, chers amis, tout de suite. Mais le monde, alors c'est autre chose que ça, ce ne sont pas les âmes, c'est cette organisation bien faite. C'est tous ces caractères qu'ils montrent, et c'est de cela que nous devons avoir peur pour nous-mêmes, car le monde a dit, le monde a dit. Alors, après cette remarque, nous en arrivons aux deux exhortations que nous avons lues dans Jacques et dans Jean. Dans Jacques, il nous est dit une parole extrêmement sévère. Quiconque est ami du monde adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est l'amitié contre Dieu? Pourquoi adultère? Qu'est-ce que c'est qu'un adultère? C'est quelqu'un qui cherche d'autres relations, un autre amour que l'amour légitime. C'est ça l'adultère. Eh bien, un chrétien qui aime le monde, qui s'y trouve à l'aise, qui s'y plaît, il est adultère à l'égard du Seigneur. Lié au Seigneur, pour l'éternité, faisant partie de son corps, voilà qu'il aime le monde, c'est un adultère. Ne savez-vous pas? La parole est positive. Ne savez-vous pas, qui parle, que l'amitié du monde est une inimitié contre Dieu? On dirait non, on peut être ami du monde. La parole est là. Amitié du monde, inimitié. Lumière, ténèbres. Obéissance, désobéissance. Vérité, mensonge. Il n'y a pas de terme intermédiaire. Il n'y en a pas dans l'Écriture. Vous en chercherez des termes moyens. Il n'y en a pas. Et puis, il est ajouté, quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en là? Se constitue. Nous ne voudrions pas être ennemis de Dieu, nous chrétiens. Nous ne voudrions pas être ennemis de Christ. Eh bien, si nous aimons le monde, si nous aimons quelqu'un du monde, pour nous unir à lui, je prends cet exemple très simple, il faut quelquefois aller dans les détails de la vie. Voilà un jeune chrétien ou une jeune chrétienne, elle aime quelqu'un du monde. Elle veut se lier à lui, s'unir à lui. Mais voilà. D'abord, elle se constitue ennemie de lui. La parole est là. Elle aime le monde, elle aime quelqu'un du monde, elle va se lier au monde, premier point. Elle se place sur un terrain de position et d'inimitié avec Dieu. Mais bien plus encore. Voilà, disons une jeune fille qui prend un jeune homme du monde. Voilà une jeune fille qui appartient au Seigneur. Si le Seigneur venait, 2 heures après son mariage, avec cet homme qu'elle aime, elle s'en irait au ciel et lui resterait pour être perdue. Donc, y a-t-il accord entre la lumière et les ténèbres? Deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Est-ce qu'avec quelqu'un du monde, je peux élever mes enfants pour le Seigneur? Dans le Seigneur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux dire à mon conjoint, mais moi je veux commander? Et surtout si c'est une sœur, si c'est une femme. Vous voyez comment l'Écriture, je prends l'exemple typique parce que nous sommes souvent légers à cet égard. On croit que le cœur parle. Oh, on dit, mais le Seigneur peut la sauver. Mais oui, mais bien sûr, le Seigneur peut tout. Alors, puisque le Seigneur peut tout, je vais désobéir pour qu'il montre un peu ce qu'il peut. Pour qu'il me montre ce qu'il peut. Je vais donc désobéir. Je vais donc pécher afin que la grâce abonde. Le Seigneur me dit de ne pas aller ici. Je vais y aller pour voir ce qu'il veut faire. En me disant, il est plein de grâce. Mais c'est un véritable blasphème, un outrage au Seigneur. Alors que nous prenons bien garde. Et puis, dans Jean, nous avons là les jeunes gens. Les jeunes gens qui n'ont pas forcément tous 20 ans, ont peut-être un jeune homme, je sens de la parole, à 50 ans, si on n'est pas, si on n'a pas mûri spirituellement, si on n'a pas cru dans la connaissance du Fils de Dieu et du Père, il est possible que l'on reste à un niveau jeune. Mais, quoi qu'il en soit, les jeunes gens sont caractérisés par trois titres divers ici. Les jeunes gens, je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts. Il y a de la vigueur, peut-être de la vigueur spirituelle, cela peut arriver. la, la vigueur spirituelle. Cela est considéré ici une énergie, une sainte et une bonne énergie. Une énergie parce que la parole de Dieu demeure en vous. Parce que la, et que la parole de Dieu demeure en vous, voilà la source de la force. Il n'est pas dit parce que vous lisez la parole, elle demeure en vous. L'apôtre aux Colossiens, lorsque la parole du Christ habite en vous, richement, elle doit habiter dans nos cœurs. Il faut les cacher. Il faut la garder là, dans son cœur. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Comment le nul garder? De cette manière-là, en aimant la parole, en la gardant dans notre cœur, en nous y soumettant, en nous y attachant. Vous êtes fort, la parole demeure en vous, et vous avez vaincu le méchant. Voyez-vous, la victoire du méchant, ce qui a vaincu le monde, nous lisons dans le chapitre 5 de cet épître, c'est ici ce qui a vaincu le monde, à savoir notre foi. Pourquoi? Parce que moi je ne peux pas vaincre le monde. Je n'ai aucune force en moi pour le vaincre. Même si je suis bien disposé. Mais je suis lié par la foi à celui qui l'a vaincu. Et si je m'appuie sur lui, si je compte sur lui, si je fais appel à lui, alors la victoire sera remportée. Ce ne sera pas la mienne, c'est la victoire de la foi qui est en nous. Vous êtes fort. La parole de Dieu habite en vous et que vous avez vaincu le méchant. Mais, comme l'ennemi ne se tient jamais tranquille ni battu, alors la parole vient préciser, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Vous avez vaincu le méchant qui règne dans ce monde, mais n'aimez pas le monde. N'aimez pas, c'est, en quelque sorte, n'aimez pas tout ce qui est autour de vous qui peut vous attirer. Ni les choses. Ici, c'est le détail. Le monde, c'est l'ensemble. Mais il y a les détails. Ni les choses qui sont dans le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde, pour le monde, du monde, et il y a des choses qui ne sont pas du monde, qui n'ont rien à voir avec nous, que le monde ne peut pas comprendre. Ce sont les choses du domaine de la foi. La foi ne s'attache pas au monde. Et vous voyez, ne croyez pas qu'on peut décider une fois pour toutes de cela. Il nous faut des luttes continuelles. Regardez l'homme qui a subi son oncle Abraham. Il l'a subi jusqu'à un moment où une petite querelle est survenue entre les bergers. Pas même entre les deux, l'oncle et le neveu, mais entre les bergers. Alors, Abraham se dit qu'il n'est pas convenable que les frères se querellent. Alors il lui dit, je choisis, prends à droite, moi je prendrai à gauche, prends à gauche, moi je prendrai à droite. Fais le choix. Si l'autre avait répondu, bien, je te laisse faire le choix, hein. D'abord, tu es plus âgé que moi, premièrement, et deuxièmement, Dieu t'a appelé. Je suis avec toi parce que je désire profiter de ta bénédiction. Ah, alors, c'était un chemin parfait. Mais qu'est-il dit? Et Abraham, et l'autre, leva ses yeux. Il leva ses yeux. S'il les avait levés assez haut, il aurait vu comme Abraham, il aurait vu autre chose. Mais il les avait juste assez pour se détacher de la terre où il était et voir la plaine arrosée du Jourdain. Et il vit la plaine arrosée du Jourdain. Et il est rappelé dans ce passage une expression assez saisissante. C'est dans le chapitre 13 de la Genèse, il est rappelé, il vit la plaine du Jourdain, toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée partout avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Voyez-vous, les deux caractères, arrosés comme le jardin de l'Éternel, on pourrait dire qu'il y avait de la bénédiction là, en Éden, c'était la bénédiction de Dieu. Mais il est ajouté comme le pays d'Égypte. Alors les deux choses se contrefont l'une à l'autre. Elles attirent toutes deux ensemble. Mais au fond, ce n'est pas parce que c'est comme le jardin de l'Éternel, c'est parce qu'elle est arrosée. Parce qu'elle est arrosée, parce qu'il y a de la prospérité. Et le pays d'Égypte, c'est ça qui l'attire. Et il descend et il s'en va de ce côté. Et il laisse ses tentes jusqu'à Sodome. Jusqu'aux portes de Sodome. Mais après, nous trouvons dans Sodome. Et après, nous pouvons assis à la porte de Sodome avec les notables, exerçant, pensait-il, une bonne influence, qui d'ailleurs n'a rien changé au cours des choses. Le jugement est venu. Vous voyez comment les progrès, il n'a pas pensé à cela. Quand il a vu cette plaine, il a dit, voilà des espaces pour mes troupeaux. Abraham va monter là-haut, c'est un peu aride, c'est difficile. Les pâturages en montagne, ce n'est pas merveilleux. Moi, j'ai des pâturages bien verts, avec les rivières qui l'arrosent, le Jourdain. Eh bien, je vais rester là. Seulement, il est allé à la porte de Sodome, dans Sodome, et il a pris une place dans Sodome. En passant, voyez-vous, quand on veut s'occuper du monde, ce qui arrive, il a failli tout faire de ce pauvre l'homme, même la vie. Il a fallu que l'Éternel, que les anges, le saisissent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Ces gens ne sont restés, se moquaient de lui. Pas une conversion à son actif. Pas un habitant de Sodome qui a dit l'autre, je veux partir avec toi. Je crois que ce qui a été dit, je m'en vais. Non, tout est resté. Il n'a rien changé, ni au caractère de Sodome et Gomorre, ni au jugement qu'il a. Et il a été sauvé comme à travers le feu. Et même sa femme a été changée en statue de sel, parce que son cœur est encore dans Sodome et Gomorre. Ah, que de leçons! Il vaut la peine de méditer tout cela, parce que ce sont des enseignements pratiques et de détails. Ah, nous parlons souvent du monde en général, de façon à croire qu'il suffit de ne pas aller ici, aller là, faire ceci, faire cela. Non. Non. Le monde, il y a aussi les choses qui sont. Or, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voyez-vous, encore ici, amour du Père, amour du monde, opposé. L'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas aimer le Père, vous ne pouvez pas jouir de l'amour du Père. L'expression est très belle. Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu, mais de votre relation comme enfant avec le Père. Vous ne pouvez pas en jouir quand votre Père est dans les cieux, quand vous pensez que vous allez être avec lui pour l'éternité, et vous aimez le monde sur la terre, et vous l'aimeriez. On le sait l'un de l'autre. L'amour du Père n'est pas en lui. Et puis il est ajouté, pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le monde, et nous trouvons les trois caractères du monde au commencement, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ève vit que l'âme était bon à manger, agréable pour les yeux, et qu'il était pour rendre intelligent. Il y avait là les trois convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ce sont les mêmes tentations que nous trouvons en Luc, devant le Seigneur, mises par Satan au désert. Les mêmes tentations, mais le Seigneur a répondu par la parole. Et par une parole chaque fois tirée du Deutéronome, c'est-à-dire du livre qui présente à l'Israélite pieux, au fidèle Israélien, qui lui présente les conditions de la possession et de la jouissance du pays, l'obéissance à la parole. Il a tiré ses trois réponses de là, en y ajoutant une autre que Satan avait citée, car il connaît aussi l'Écriture, aussi bien que vous et que moi. Il sait la citer, mais alors il la coupe. Il la coupe en partie. Eh bien, pour résister à tout cela, il est écrit. Il est écrit. Il est encore écrit. Et la dernière fois, il dit, il est aussi écrit. Tu as cité une partie, mais il y a encore ceci, tu as oublié. Moi, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Alors, vous voyez comment l'importance de la parole est là pour que nous comprenions que la seule façon de résister aux tentations du diable, c'est de nous soumettre à la parole et de la laisser agir dans le cœur. Mais elle demeurait en lui, cette parole. Ah, il y habitait richement. Et alors, d'ailleurs, pourquoi les Colossiens entendent cette exhortation? Parce que tout ce qui est dans le monde n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Le monde s'en va. Pensez-y. Quand vous regardez du côté du monde et que vous y trouvez quelque attrait, dites-le, cher Jean, redites-le vous, ça s'en va. Ça va passer. Ça s'en va pour bien des raisons. La première, c'est que nous ne demeurons pas dans le monde toujours. Nous passons par la mort si le Seigneur nous vient. Pas. Le monde s'en va son propre chemin vers la condamnation, vers le jugement, mais avec ses convoitises. Et puis, le monde s'en va parce que moi je m'en vais. Le Seigneur va venir. C'est pourquoi nous avons été poussés à lire ses paroles. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Il y aura un jour de la récompense. Ne croyons pas que rien n'est oublié. Ne pensons pas qu'il n'y a que des grandes choses, qu'il n'y a que des frères qui visitent les assemblées ou les évangélistes qui partent aux missions. Non, non. Ne croyons pas cela. Un jeune enfant qui aurait été fidèle au Seigneur, une jeune fille qui dans son cœur a été fidèle au Seigneur, sans que personne le sache, elle a pleuré sous son oreiller la nuit. Elle a crié au Seigneur. Elle sentait que c'était difficile de renoncer. Mais Seigneur, donne-moi la force de le faire pour toi. Elle l'a fait. La foi vaincue. Eh bien, chers amis, il y aura une récompense. Il nous vient la peine. de perdre quelque chose pour quelques années ici-bas, afin d'avoir une récompense dans le ciel pour rien ne passer. Récompense qui sera pour votre joie, mais aussi et avant tout pour la joie de Christ. Qu'est-ce que le Seigneur dit aux esclaves auxquels il a confié des talents? C'est bien, bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses. D'ailleurs, il est mis en ce qui est très peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Je dis t'habiller ce coup. Entre dans la joie de ton maître. Goûtez un jour la joie, par la source de joie, qu'un enfant de Dieu a été pour le Seigneur, pour celui qui est mort pour lui. Lui dire, Seigneur, je ne peux pas te rendre beaucoup. Je ne peux rien faire pour toi, je ne suis peut-être pas qualifié, je sens ma faiblesse. Mais vois-tu, au moins cela, j'ai dit non pour toi. Tu m'as donné la force de vivre, Seigneur, qui souviendra ça. Il y aura sa récompense un jour. Ne vaut-il pas la peine de le faire pour le Seigneur, par amour pour lui? Ne vaut-il pas de dire à celui qui nous a tant aimé, Seigneur, je t'aime en tout, et sans le dire, faire quelque chose? Il va lui dire à lui ce que la terre, ce que la terre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons un sauveur de la gloire, un Seigneur glorieux. Il est là, je me sanctifie moi-même pour eux. Qu'est-ce que mon cœur cherche? Autour de moi ou là-haut? Quel est l'objet dans ma vie? Mes chers amis, si j'avais eu dans ma vie, je dis moi, mais les frères, les chrétiens, si j'avais eu dans ma vie des choses sur la terre, maintenant que faudrait-il faire? Quand tout cela échappe, quand il faut tout laisser cela, alors que quand on arrive au bout de la course, on est pleinement heureux en pensant que jamais nous n'avons été si près du moment où nous verrons le Seigneur, où nous serons avec lui, en attendant de voir face à face. Eh bien, que le Seigneur bénisse, et nous bénisse tous par sa parole. Liant nos cœurs à lui d'une façon toujours plus étroite pour que le monde n'ait pas d'attrait sur nos cœurs, mais que nous laissions ce monde qu'il a crucifié pour être à lui pour toujours.